Je vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Rouge à la présentation.
Bonsoir, deux thèmes dans l'émission de ce soir. Province du Nord Kivu, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de paix condamne le massacre de 62 personnes civiles dans le secteur de Loukouéti. Conséquence, la MONUC suspend son appui logistique aux unités des FARDC mises en cause dans ce massacre. Comment expliquer la décision de la MONUC? Le deuxième thème, province de l'Équateur, situation confuse dans la localité de Dongo, où la population fuit cette localité après les affrontements sanglants jeudi dernier entre les jeunes gens armés du clan Ignélé et la police. Comment analyser cette situation? Nos invités sont Général Babacar Gaye, commandant des forces de la MONUC, Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu, Xavier Zébrouk, directeur adjoint du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité GRIP, une ONG basée à Bruxelles en Belgique, Guy Inengue, gouverneur intérimaire de la province de l'Équateur. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Au moins 62 personnes civiles, dont un nombre important de femmes et d'enfants, auraient été massacrées entre mai et septembre dernier dans le secteur de Loukouéti, près de Niabiondo, environ 80 km au nord-ouest de Goma, en territoire de Massissi, au Nord Kivu. C'est le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de paix, Alain Leroy, qui l'a annoncé hier dimanche à Goma. C'était à l'issue d'un bref séjour dans le secteur de Niabiondo et de Ntoto pour évaluer la situation sécuritaire dans cette région où les FARDC sont en opération militaire contre les FDLR avec l'appui logistique de la MONUC. Et du coup, selon M. Leroy, l'appui logistique de la MONUC est suspendu aux unités mises en cause dans ce massacre. Et cela en attendant les conclusions d'une enquête conjointe FARDC-MONUC. Alain Leroy, au micro de Jules Ngalawamona.
Le bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme a pu corroborer le fait qu'au moins 62 personnes, dont un nombre significatif de femmes et d'enfants, ont été tuées pendant cette période de mai à septembre 2009. Selon nos informations, ces civils ont été clairement la cible d'attaque de certains éléments des FRDC. A priori, ils appartiennent à la 213e brigade, dont les autorités militaires ont convenu avec nous qu'il convenait de lancer immédiatement une enquête conjointe pour vérifier ce fait. Et ensuite, bien sûr, dans l'attente, en tout cas, des résultats de cette enquête conjointe, donc nous avons décidé que la MONUC suspende immédiatement son support logistique et l'appui opérationnel aux unités des FRDC qui sont impliquées dans cette tuerie. Ensuite, il reviendra au FRDC, bien entendu, et éventuellement ensuite à la justice de prendre les mesures qui s'imposent.
Général Babacar Gaye, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes commandant des forces de la MONUC. Comment vous expliquez cette décision de la MONUC et pourquoi maintenant?
Cette décision de la MONUC est une réponse à une situation dont je pense toutes les parties prenantes de la résolution des problèmes au Kivu, toutes les parties prenantes sont parfaitement conscientes. Il y a, on s'en est rendu compte, la presse s'en est fait l'écho, des problèmes de discipline au sein des FARDC. On peut bien sûr développer, si c'est utile, sur les causes de ces problèmes d'indiscipline et également sur les cas de violation de droits de l'homme qui sont observés. Mais face à cette situation que la MONUC se trouve dans l'obligation de mettre en œuvre son mandat. Et son mandat prévoit que la MONUC apporte son soutien aux différentes unités des FARDC engagées dans des opérations de désarmement forcé des groupes armés étrangers et nationaux, sous réserve que ces opérations soient conjointement planifiées et que les droits de l'homme et tous les droits associés soient respectés.
Mais
Oui.
Excusez-moi, mon général, de vous interrompre à ce niveau-là, mais on se souvient que dans un rapport récent, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, Philippe Alstom, a dénoncé la poursuite des massacres attribués aux FARDC et aux groupes armés. Beaucoup d'ONG nationales et internationales sont revenues sur la même chose. Mais pourquoi la MONUC prend cette décision maintenant seulement?
La MONUC prend cette décision parce que elle travaille en partenariat avec les FARDC. Et les FARDC ont été prévenus de ce que il fallait absolument mettre en place des mécanismes pour que tous les cas d'indiscipline, tous les cas de violation des droits de l'homme fassent l'objet d'abord d'enquêtes. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement de suspendre ou de continuer un soutien. Ce qui est en jeu, c'est de sanctionner ceux qui sont les auteurs de ces violences. Et ceci s'inscrit parfaitement dans la politique de tolérance zéro qui a été édictée par le président de la République, la RDC.
Avant
donc, par conséquent, oui, je vous en prie.
Je vous en prie, terminez votre idée, mon général.
Très bien, je dis donc, par conséquent, ce n'est pas simplement une sanction qui est appliquée au FARDC, loin de là, c'est le résultat d'un partenariat. Les FARDC ont été avertis que ce soutien que nous vous apportons, eh bien, nous ne pourrons pas continuer à vous l'apporter s'il n'y a pas une amélioration dans le comportement des unités. Il faut convenir qu'une amélioration a été observée dans les mois passés. Et comme par hasard, cette amélioration correspond en général à deux choses. Une amélioration du soutien que l'on amène au FARDC sur le terrain, que les autorités portent au FARDC sur le terrain, et de notre côté, la mise en œuvre de sanctions, la mise en œuvre de sanctions contre les auteurs de violations des droits de l'homme. C'est la combinaison de ces deux choses qui permet d'améliorer la discipline sur le terrain.
Avant de donner la parole à Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu, général Babacar Gaye, qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on dit que on parle de la suspension de l'appui logistique? Concrètement, ça veut dire quoi?
L'appui logistique, ça veut dire que l'ensemble de l'appui qui est apporté au FARDC dans les opérations conjointes, cet appui comporte deux aspects. Un appui logistique, plutôt un soutien logistique, et un appui opérationnel. En ce qui concerne le soutien logistique, chaque mois, nous mettons à la disposition des FARDC un certain nombre de rations pour l'alimentation des hommes sur le terrain. Et les FARDC nous désignent quelles sont les unités prioritaires du fait de leur éloignement, du fait de la situation dans laquelle ils se trouvent, du fait de beaucoup d'autres paramètres, pour que nous amenions au niveau des bataillons des FARDC cette alimentation, ceci en soutien de ce que fait le gouvernement. Donc, grosso modo, quand on dit qu'on retire le soutien, ça veut dire que nous ne donnerons plus aux bataillons qui ont été ciblés dans la communication du sous-secrétaire général le soutien, notamment en alimentation, que nous leur apportions.
Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Comment vous avez reçu la nouvelle de ces massacres, tels qu'énoncés par Alain Leroy?
Oui, merci beaucoup. Je vais d'abord commencer par saluer le général Babacar Gaye, envers qui j'ai beaucoup d'estime pour la façon avec laquelle il conduit les opérations en Nord Kivu. Je tiens à confirmer effectivement que j'ai reçu le secrétaire général adjoint, M. Alain Leroy, qui, en fait, ce dimanche, a annoncé cette grande mesure de devoir suspendre l'appui logistique de la MONUC. Mais je tiens tout de suite à rappeler que la zone dans laquelle ont eu lieu ces massacres, qui date de 5 mois bientôt, est une zone où coagissent à peu près 3 forces. La première force, c'est d'abord les FARDC. La deuxième force, ce sont les FDLR. Et la troisième force, c'est un groupe armé qui n'a pas signé les accords du 23 mars 2009, qu'on appelle APCLS, qui est dirigé par un colonel ou général Janvier, c'est cela. Et donc, lorsque nous avons appris que la MONUC a suspendu l'appui logistique, nous nous demandons, est-ce que l'enquête a pris fin pour qu'on établisse déjà les responsabilités du massacre qui a eu lieu à Loukouéki? Est-ce que ce sont les FABC? Est-ce que ce sont les FDLR? Est-ce que ce sont les éléments de l'APCLS? Moi, j'estime que la décision qui a été prise, celle de constituer une commission d'enquête mixte composée de la MONUC, des FABC et des éléments des ONG internationales, est une bonne décision pour la simple raison que c'est à partir de cette commission mixte qu'on va devoir établir les responsabilités de celui qui est à l'origine de ce massacre. Surtout que le massacre dont on parle ici n'a pas été commis il y a deux jours. C'est un massacre qui s'étend sur pratiquement à 5 mois. Et que donc, il est important qu'on établisse cette commission qui devra établir les responsabilités. Et d'ailleurs, ce matin, nous étions réunis avec le général Amouli, qui est le commandant en charge des opérations du côté FABC. Il a clairement dit que des dispositions en train d'être prises, notamment à l'endroit des commandants qui se seraient rendus coupables des comportements qui serait de nature à amener les FABC à commettre ce genre d'exactions. Donc, à notre niveau, le gouvernement est d'accord que s'il y a des responsabilités qui sont établies dans les chefs d'un commandant FABC, eh bien, les sanctions doivent être prises conformément à la loi. Mais, moi, j'estime que ça a été trop tôt pour la MONUC directement de suspendre son appui logistique au FABC sans avoir établi les responsabilités qui pèseraient sur l'une ou l'autre faction, telle que je viens de vous évoquer tout à l'heure, à savoir soit les FABC, soit les FDLR, soit les éléments des APCLS qui coagissent dans la région dans laquelle ont eu lieu les massacres.
Monsieur le gouverneur, il y a moins d'eau, Roger de Routourou, au nord Kivu, dans la province où vous êtes gouverneur, qui dit le gouverneur Julien Paluku vous dira comme toujours qu'il n'y a rien eu alors qu'on nous tue et nous viole chaque jour. Nous attendons de la MONUC le transfert de la liste des auteurs de ces massacres à la CPI.
Oui, je ne sais pas d'où il tire cette affirmation qui est gratuite. Je n'ai pas dit qu'il n'y a rien eu. Il y a eu massacre depuis le mois de mai jusqu'à aujourd'hui. Les chiffres officiels que nous connaissons, c'est autour de 60 qui ont été tués depuis le mois de mai dans cette région. Comme vous le savez, il n'y a jamais eu de guerre propre, je le répète tous les jours. Si aujourd'hui nous nous battons tous au niveau national, au niveau provincial, pour que la guerre prenne fin, c'est parce qu'il n'y a pas de guerre propre. Il n'y a jamais eu de guerre où on sortira avec de très bonnes choses. Certainement que ce qui se passe au nord de vous, c'est catastrophique dans les massifs, dans les Rutshuru, dans le sud de Lubero, c'est la catastrophe, c'est des gens qui meurent, c'est des maisons qui sont brûlées tout le temps, et que donc on ne peut pas refuser que des massacres ou des exécutions se passent dans la province, mais tout ce que nous refusons, c'est qu'on établisse directement des responsabilités dans les chefs de certaines personnes sans que l'enquête ait été diligentée et que l'on ait été mis au parfum des résultats de l'enquête. Donc c'est cela ce que nous demandons et nous sommes d'accord avec la MONUC que la commission soit directement dépêchée sur les lieux, non pas seulement à Loukouéki, mais sur l'ensemble de la province pour qu'on établisse effectivement les responsabilités de ceux-là qui passeraient pour des indisciplinés dans les chefs des FABC, mais également de voir si des exactions comme celles-là ne sont pas l'œuvre des FDLR, parce qu'on connaît à travers la province comment ces forces étrangères ont tué, ont volé, ont violé nos populations ici au nord Kivu. Donc il n'est pas question pour le gouverneur de nier qu'il y a eu un massacre quelque part, mais c'est évidemment de chercher que des responsabilités précises soient établies dans les chefs de ces mecs qui seraient coupables de ces différentes infractions.
Merci monsieur le gouverneur, vous êtes encore avec nous dans cette émission. Xavier Zébrouk, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité GRIP, ONG basée à Bruxelles en Belgique. Quelle est votre lecture de la décision de la MONUC telle que l'a énoncé Alain Leroy, le sous-secrétaire général des Nations Unies? Et vous avez suivi le gouverneur Julien Paluku qui dit que pour lui, la décision de la MONUC est prématurée, il fallait attendre la fin de l'enquête.
Oui, je pense personnellement qu'en fait cette décision est une suite logique, si vous voulez, puisque, comme il a été rappelé par vos autres interlocuteurs, il y a deux semaines, il y a eu le rapport du rapporteur spécial Philippe Alston sur les exécutions extrajudiciaires en RDC, et ce rapport indiquait, confirmait une chose qu'on savait depuis longtemps, c'est que la FARDC participe à certains massacres, et il demandait que, au fond, le mode opératoire de la coopération entre la MONUC et la FARDC change et qu'on tienne davantage compte dans ce mode opératoire des civils. Donc, d'une certaine façon, la décision de la MONUC aujourd'hui, eh bien, elle est le résultat logique de ce rapport et de ces déclarations de Philippe Alston. Donc, je m'en réjouis. D'un autre côté, depuis le temps qu'on parle des exactions commises par des membres des FARDC, ça fait quand même plusieurs années. Donc, d'un autre côté, il est temps qu'une décision de ce type intervienne, parce que la MONUC est de plus en plus montrée du doigt à l'occasion d'exactions et de massacres commis par les FARDC. Je vous rappelle que pour beaucoup de Congolais, la MONUC est maintenant perçue comme partie au conflit, puisque, comme l'a rappelé le général, elle appuie les FARDC à travers notamment la mission Kenya 2, et ce n'est pas uniquement un appui en termes de rations, c'est un appui également en termes de munitions, voire parfois un appui feu direct. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, la MONUC ne peut plus accepter que des unités des FARDC commettent des massacres et que ces massacres soient impunis.
Donc, pour vous, cette décision n'est pas prématurée. Elle arrive au bon moment.
Elle arrive au bon moment et certains pourraient dire on l'a longtemps attendue, hélas.
Donc, attendre les enquêtes, et comme l'a dit le général, le gouverneur de la province du Nord Kivu, vous trouvez que ça n'a pas sa place?
Non, ça je ne dis pas. Une commission d'enquête a toujours sa place. Mais vous savez, lorsqu'il y a un doute, lorsqu'il y a une suspicion forte, mais il vaut toujours mieux prendre une décision suspensive en attendant les résultats de l'enquête, parce que quand même, les doutes sont très très forts sur l'unité en question qui aurait commis ces massacres. Alors si l'enquête prouve le contraire, eh bien tant mieux pour les unités et la suspension prendra fin. Mais en attendant, il faut prendre une décision.
Quand on a y voir de près, hein, d'après vous, c'est pas. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que la MONUC a fait l'objet des pressions pour prendre cette décision afin de se dédouaner, par exemple?
Non, ça je ne le pense pas. Je pense que les Nations Unies et la MONUC en fait partie. C'est une organisation complexe avec de nombreux acteurs et qu'évidemment, pour prendre des décisions de ce type, il faut un certain temps, hélas. Comme votre interlocuteur l'a rappelé, les massacres ont été commis entre mai et septembre de cette année. Nous sommes en novembre. C'est déjà fort tard pour réagir. Mais d'un autre côté, quand on voit d'autres dossiers, la réaction n'est pas si lente que ça. C'est l'ONU, il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas affaire à un commandant de la force qui décide tout seul. Ça n'est jamais le cas. Vous n'avez pas affaire à un représentant spécial qui peut prendre une décision du jour au lendemain. Donc, il y a une certaine maturation. On peut espérer que ça soit plus rapide à l'avenir.
Général Babacar Gaye, vous avez suivi Xavier Zeebrugge, le gouverneur Julien Paluku. Le gouverneur dit que cette décision est prématurée. Il y a également cet auditeur Logo Tsulogi de Bouya en province orientale qui dit « Je me demande si la MONUC, avant de prendre cette décision, s'est rassurée si la responsabilité de ce massacre est imputable au FARDC. »
Vous savez, quand je compare la nature de la décision qui consiste à suspendre un soutien logistique, mais également à suspendre, comme l'a très bien dit M. Xavier Zeebrugge, un appui opérationnel. Quand je compare cela à ce qui est en jeu, à savoir des populations sans défense qui auraient été massacrées par des hommes en armes, et quand je compare cela, je trouve que vraiment suspendre le soutien n'est pas grand-chose. Ce à quoi on s'attend, c'est que vraiment les coupables soient identifiés et qu'ils soient sanctionnés en conséquence. C'est ça le véritable enjeu. Maintenant, si cette suspension des opérations a l'avantage d'accélérer les procédures d'enquête, et surtout de donner un signal. Nous avons jusqu'à présent soutenu la FRDC. Quand M. Xavier dit que nous sommes partie prenante, il a à bien des égards raison. Je précise que nous sommes impartiaux lorsque les politiques vertueuses des Nations Unies sont en jeu, quelles que soient les parties au conflit. Que nous sommes impartiaux lorsqu'il s'agit de protéger les populations, c'est notre mandat. Mais il est clair que nous apportons notre soutien au gouvernement, au FRDC, pour désarmer de force les groupes armés étrangers et nationaux. Mais nous le faisons en ne renonçant pas à ce qui fait l'identité des Nations Unies. Je suis très heureux que M. Xavier ait apporté des éclairages à nos auditeurs pour leur faire comprendre combien était complexe, la situation et combien il y avait des considérations à prendre en compte avant de prendre des décisions. J'ajoute que supportant le gouvernement, nous avons pensé qu'il était de notre devoir de le prévenir, que voilà la politique qui serait désormais mise en œuvre. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait en prévenant que désormais, voilà ce que nous allions faire. Et nous avons eu l'occasion, hélas, de mettre en œuvre cette politique.
Alors, général Babacar Gaye, la MONUC est prête à aller jusqu'où hein, dans cette suspension?
Écoutez, la MONUC est prête à aller jusqu'à arrêter la suspension à toute unité des FRDC qui se trouverait l'auteur de violations graves des droits de l'homme. Voilà tout simplement ce qui a été fait dans ce cas. Mais si vous voulez m'entendre vous dire que nous sommes prêts à arrêter toute l'opération, ce serait faire fi de la décision récente du Conseil de sécurité. Donc ce n'est pas cela l'enjeu. Ce serait faire fi des efforts qui sont significatifs faits par le gouvernement et les FRDC pour améliorer la discipline au sein des FRDC. Donc nous ne sommes pas dans une perspective de dire, écoutez, c'est un premier pas vers un arrêt de l'opération. Non, nous sommes dans une perspective de dire, c'est pour vous montrer qu'il faut absolument faire effort sur la discipline, parce que je suis heureux que notre mesure ait eu le retentissement qu'il a eu, que nous ayons cette émission, que la presse s'en fasse l'écho. Ça permet à nos partenaires des FRDC de comprendre que nous vivons dans un monde global où nous sommes suivis par le monde entier de ce que nous faisons.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, il nous reste juste 2 minutes hein, pour terminer cette première partie. Votre réaction par rapport à ce qu'a dit le général Gaye?
Oui, je n'ai pas de réaction autre que celle que j'ai annoncée tout à l'heure. C'est-à-dire, je suis d'accord que s'il y a dans les chefs des forces armées, c'est là qui serait coupable d'un certain comportement gauche, c'est tout à fait normal que la justice congolaise puisse faire son travail. Ce que je n'ai pas pu comprendre tout de suite, c'est parce que nous sommes ensemble avec la MONUC, on a fait un grand travail depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. On a dû rapatrier plus de 12 000 Rwandais chez eux, c'est quand même énorme. Et on ne doit pas oublier cela à la suite d'un petit point noir qui apparaît aujourd'hui dans le parcours. C'est un point noir que nous estimons devoir trouver rapidement des solutions. Ça ne doit pas empêcher que nous puissions continuer avec le travail que nous avons fait depuis bientôt 10 mois. Et que donc, la MONUC est en droit de s'interroger sur les massacres qui ont eu lieu depuis le mois de mai. Et nous, comme gouvernement, nous avons le devoir, effectivement, d'établir les responsabilités. C'est la raison pour laquelle la commission d'enquête, qui va déjà dès ce mardi entrer en jeu, va nous déterminer au niveau des responsabilités. S'il s'agit des FRDC, et bien le commandement des FRDC est déjà clair là-dessus, les commandants qui se retrouvaient coupables ou complices dans un massacre ou un autre qui a eu lieu sur le territoire congolais, et bien ils seront traduits en justice conformément à la loi. Donc là, il n'y a pas de stérilisation là-dessus. C'est sur lequel nous devons revenir, c'est que tout simplement, la MONUC devrait comprendre qu'elle a fait énormément de travail. et que nous ne devons pas laisser les champs libres hors de l'air de considérer que on a relâché un tout petit peu la pression sur eux pour qu'ils reviennent maintenant en place dans le Nord Kivu et que tous les efforts que nous avons consentis ensemble soient finalement jetés à l'eau à la suite de ce relâchement que la Monique vient d'annoncer tout à l'heure. Donc je pense que nous devrions mettre des bouchées doubles, la main à la pâte, pour que nous continuions la pression sur les FDLR, que nous obtenions finalement que tout ce que nous avons fait, que les bases que nous avons détruites ne puissent plus se reconstituer à la suite de ce relâchement qui vient d'être annoncé par la Monique. C'est ça la philosophie que nous avons développée, et ce n'est pas une façon de couvrir les massacres éventuels qui auraient été perpétrés par l'un ou l'autre élément d'une unité donnée.
Merci, monsieur le gouverneur Julien Paloukou, c'est par là que...
Monsieur le gouverneur.
Pardon ?
Allô ? Puis-je répondre à monsieur le gouverneur, s'il vous plaît ?
En une minute, mon général.
Parce oui, que tout à fait. C'est très important.
Et votre faut conclusion.
Préciser à monsieur le gouverneur Paloukou, auquel je vous la même estime, qu'à aucun moment je n'ai parlé d'un quelconque relâchement ou d'un quelconque renoncement. Ce n'est pas au moment où la MONU fait arriver un renforcement de 3000 hommes, un bataillon égyptien, un bataillon bangladeshi, deux compagnies de forces spéciales, des hélicoptères additionnels, qu'il est question de relâchement. Pas du tout. Nous n'avons jamais dit ça que nous renoncions. Nous suspendons notre soutien à un bataillon bien déterminé. Et l'enquête définira les contours exactement de ce qu'il faut, de là où il faut suspendre. Merci. Mais les autres unités des FRDC continueront à bénéficier de notre soutien.
Merci.
Nous continuerons à opérer avec les FRDC. Le général Amoudi sait très bien que nous sommes dans une période de planification pour relancer les opérations au mois de novembre et au mois de décembre, pour en terminer avec ce que le ministre Tambwe lui-même à Nairobi a appelé un cancer, c'est-à-dire la FDLR. Oui, la MONUC est aux côtés des FRDC, les Nations Unies sont aux côtés de la RDC pour régler ce problème.
Merci beaucoup, général Babacar Gaye, commandant des forces de la MONUC. Merci également à Julien Paloukou, gouverneur de la province du Nord Kivu, d'avoir participé à la première partie de cette émission. Avant d'aborder la deuxième partie, voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Situation encore tendue et confuse à Dongo, localité à 230 km de Guémena dans le district du sud, Oubangui dans la province de l'Équateur, et ce depuis que la police d'intervention rapide s'est affrontée avec les jeunes gens armés du clan Enielé le jeudi dernier. Les détails dans cet entretien entre notre collègue Samuel Tchak et Paul-Richard Malingela.
Paul-Richard Malingela, vous êtes l'un de nos correspondants en Mbandaka. Comment se présente la situation actuellement?
Bonsoir Samuel Tchak. En tout cas, c'est l'incertitude totale sur le terrain à Dongo. Aucune communication n'est encore rétablie. Tous les habitants ayant fui et emporté des fourni le seul moyen de communication avec cette localité. Mais des sources concordantes, Dongo est toujours sous contrôle des assaillants ennemis. Et la population qui avait fui les affrontements continue à arriver dans des localités voisines de Congo Centre, de Libengue et du Congo Brazzaville. L'administrateur du territoire assistant de Congo, que nous avons joint cet après-midi, parle d'au moins 7 familles arrivées à Congo Centre et à l'hôpital de Bokonzi à environ 200 km de Guémena pour se faire soigner des blessures. Toutefois, aucune assistance n'est encore apportée aux déplacés venus à Libengue et à Congo. Mais le bilan reste officiellement de 7 policiers et 4 civils tués.
Quels sont les efforts déployés pour rétablir l'ordre pour Richard?
Il faut signaler que 106 autres éléments de la police d'intervention rapide, pire, envoyés par Kinshasa, sont arrivés depuis dimanche dernier à Guémena. Mais aucune autorité sur place n'avance un quelconque commentaire pour des raisons stratégiques. Cet avant-midi, le commissaire du district a tenu un meeting populaire au marché central, mais c'est Jean-Baptiste Lumbwe a appelé la population au calme et à la vigilance. Il demande le soutien des habitants aux efforts gouvernementaux pour mettre fin à ce qu'il appelle la rébellion des Enielé. C'est pourquoi il a également conféré avec la notabilité locale.
Pourquoi doit-il associer la notabilité pour Richard?
Oui, Samuel, selon certaines sources, il y aurait un mouvement suspect des jeunes gens dans certains grands centres du sud Oubangui, notamment à Guémena, voire ici à Mbandaka. la plupart des ex-combattants démobilisés se font de plus en plus rares. Il semblerait qu'ils sont en train de gagner les rangs des ennemis. C'est pourquoi la notabilité pourrait constituer une force dissuasive pour convaincre ces jeunes gens à ne pas s'enrôler dans la rébellion.
Donc, ce qui expliquerait la résistance que les ennemis ont opposée aux éléments de la police dernièrement.
Difficile de le confirmer, Samuel. Néanmoins, certaines sources nous ont appris que ces jeunes ennemis portaient également des armes de guerre, des armes lourdes même. Et parmi eux, il y aurait des éléments des ex-forces armées ivoiroises et plusieurs démobilisés. Ils seraient aussi commandés par un certain capitaine Nyamuka Emeka de FRDC. Pour certains observateurs, il faut craindre le pire, car avec la concentration des troupes de FRDC et de la MONUC à l'est du pays, l'ouest de la RDC reste perméable, même à des petites incursions internes comme celle de Vénélé.
Merci beaucoup, Paul Richard.
Merci à Paul Richard Malingela et Samuel Kachak qui veulent nous excuser pour la qualité de cet élément. Deux invités participent à cette deuxième partie. Xavier Zebrouck, directeur adjoint du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité GRIP, ONG basée à Bruxelles en Belgique, ainsi que Maître Guy Imengue, gouverneur intérimaire de la province de l'Équateur. Bonsoir, Maître.
Et bonsoir.
Alors, Maître Guy Imengue, comment analysez-vous cette situation qui se passe à Dongo?
Oui, la situation s'explique aujourd'hui, d'autant plus que depuis le mois d'août, je n'avais jamais manqué de déplorer cette situation-là. Il s'agissait d'un complot et d'une petite manifestation, mais qui aujourd'hui se manifeste au grand jour. Au mois d'août, déjà, j'avais parlé dans les mêmes zones d'ici de la radio Capi. Il s'agissait bel et bien de cette affaire-là. Et la situation aujourd'hui est que ils ont pris bien sûr Dongo. Il y a quelques groupes qui se sont dirigés vers Inessé. Et il y en a un autre petit groupe qui va vers Bosuma, c'est-à-dire qu'en regardant, en pointant les regards vers Libengue, et le groupe qui cherche à aller à Congo Centre. Donc c'est ça, ils ont pris quatre axes. Et oui, ils s'organisent, donc il ne s'agit pas seulement d'une simple dispute des États et qu'on sort tout ça, c'était un alibi, c'était un prétexte juste pour semer de la désolation. Mais ce que l'autorité provinciale a conseillé à nos forces, c'est de faire effectivement la démarche que le commissaire des districts a entreprise ce matin, de faire comprendre à nos compatriotes qu'aujourd'hui notre pays n'a pas intérêt encore une nouvelle aventure sans lendemain. C'est-à-dire que vous avez vécu les pays et surtout la province de l'Équateur venaient de connaître des guerres inutiles. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de cette aventure-là. Excusez-moi la répétition, mais c'est une aventure sans lendemain et l'autorité va s'en occuper d'abord en y allant par la persuasion. Et quand nous arriverons aux ultimes solutions, nous ne manquerons pas, en tout cas, de les utiliser.
Maître Guy Imengue, donc, si je vous ai compris, vous confirmez que ce mouvement est une rébellion en gestation par le simple fait de s'étendre à d'autres localités.
Bien entendu, lorsque deux groupements qui ne représentent même pas une superficie de 100 km², s'étendent jusqu'au-delà de 300 km, au-delà même des localités et du chef du secteur qui n'est pas concerné par cette dispute-là des fameux états poissonneux. Vous voyez déjà, et avec quelle arme on est en train d'utiliser, avec quelle personne, avec quel acteur, le capitaine dont on vous parle, il est venu expressément de Kinshasa, sous prétexte de venir en congé dans son village, et pour faire le dernier bouton, pour recentrer son groupe et le commander.
Alors, Xavier Zebrouck, vous venez de suivre le maître Guy Imengue, gouverneur intérimaire de la province de l'Équateur. Certains observateurs craignent que la situation de l'Est ne se transpose à l'Ouest. Quelle est votre lecture?
Oui, il est peut-être un peu tôt pour tirer des conclusions de ce type. D'autant que moi, je dois rester très prudent vu le peu d'informations que nous avons jusqu'à présent. Mais d'après ce que le gouverneur vient de nous dire et certains articles que j'ai lus, je remarque quand même qu'il y a un cocktail relativement classique qui s'offre à nous. D'un côté, il y a un conflit communautaire autour des temps piticoles vraisemblablement, même si ce conflit est instrumentalisé, il y a à la base quelque chose. Et puis, il y a des anciens combattants démobilisés qui vraisemblablement n'ont pas retrouvé d'activité professionnelle et qui peuvent donc être facilement recrutés par des gens qui veulent envenimer le conflit. Et troisième élément, il y a une circulation très très facile d'armes de guerre au Congo, ça c'est connu depuis très longtemps, ce qui explique que des jeunes gens peuvent relativement facilement, dans une zone du Congo qui n'est pas en conflit jusqu'à présent, trouver ces armes de guerre et les utiliser. Alors, un conflit communautaire, des anciens combattants et des armes de guerre qu'on trouve facilement, mais évidemment, il est facile à ce moment-là pour des gens sans scrupules d'envenimer un conflit et de le récupérer pour fixer leur propre agenda. Voilà, ça m'inquiète, et effectivement, le fait que ça se déroule à un endroit où la MONUC et les FARDC sont relativement peu présentes, eh bien, c'est un cocktail qui pourrait être difficile. Et puis maintenant, il faut voir ce qui va se passer.
Maître Guy Menge, il y a Jean de Guémena à l'Équateur qui dit « Dès les premières heures des affrontements à Bongo entre les deux clans, les autorités en place devraient privilégier la négociation et non la force. » Maître Guy
Je ne sais pas, oui, je suis à vous, je suis en ligne.
Je vous en prie.
Parce que Jean m'a vu. S'il était au moins présent, il m'a au moins tout. Je suis allé physiquement à Dongo, personnellement. J'avais convoqué les notables, et j'ai demandé même au chef de secteur complice, celui qui a été suspendu, d'aller me chercher, ces fameux Oujani. J'ai demandé, et ils ont refusé de venir. Il n'y a que leur chef de groupement qu'ils ont révoqué, parce qu'ils ont établi une nouvelle administration. Là-bas, il y a une petite administration, et tous les chefs de groupement, tous les chefs de localité sont rejetés. Et ce chef-là de localité, qui est venu, plutôt le chef de groupement, qui est venu me raconter toute la trame. C'est ça la vérité. Il est là, c'est pas très présent. Si j'ai été présent à Guémena, il m'a vu venir négocier personnellement. Nous avons tenu une réunion devant le bureau du secteur, sous les arbres, pour utiliser le principe africain de l'arbre à la palabre. Et nous l'avons utilisé. Mais malheureusement, les jeunes gens ont progressé jusqu'à s'entêter et abattre l'autorité. C'est ça la situation aujourd'hui.
Alors, il y a Richard de Guémena encore, l'Équateur, qui dit « La situation de Dongo mérite une attention spéciale tant au niveau national qu'international. Nous créons le transfert du mouvement de l'Est à l'Ouest. »
Tout à fait.
Alors,
Il a effectivement raison. Et nous avons déjà eu à faire accomplir, à faire diligenter pratiquement 5 missions. La première mission était celle qui avait dirigé un des élus accompagné de ses collègues députés. Ils sont partis là-bas. Comment leurs élus n'ont pas été écoutés? Ça, c'était la première mission. La seconde a été conduite par la police. La police n'a pas obtenu bien des causes en dépit de toutes les négociations menées. Et la mienne, la mission que j'avais conduite moi-même, était la troisième mission. Et enfin, le commissaire de district est arrivé après moi. Il n'a pas obtenu bien des causes. Ça, c'est l'ultime solution. Et nous pouvons aller vers cette même population pour négocier la paix. Vous savez, nos frères doivent revenir à la raison. C'est ça l'objectif. Mais l'État ne peut pas se laisser continuellement larguer s'il va bafouer par des civiques ou des indisciplinés.
Alors,
c'est la vérité.
À ce jour, Maître Guy Menge, quel est le bilan dont vous disposez à ce jour?
Nous avons le bilan que celui que Paul Richard Menge avait relevé. C'est le bilan provisoire qui nous détonnant, mais je crois d'ici là, si la solution évolue autrement, nous n'essayerons pas de porter cela à la radiocapie. Voilà.
Xavier Zébrouck, vous venez de suivre le gouverneur intérimaire, Maître Guy Menge. À votre avis, jusqu'où pourrait aller ce mouvement?
Oui, alors là, je suis très mal placé pour vous le dire, évidemment, puisque je ne suis pas sur place et que je ne connais pas les protagonistes. Mais effectivement, je crois qu'il faut absolument négocier avec les animateurs du mouvement, les responsables du mouvement. Mais négocier, hélas, souvent ne suffit pas. Donc il faut à la fois tendre la main et en même temps se tenir prêt si les négociations échouent ou si on ne veut pas négocier. Et donc, vous voyez, il faut une politique de la carotte et du bâton d'un certain côté. Mais il ne faut pas espérer tout régler par la violence, parce que on l'a vu à de nombreuses reprises dans l'Est, ça ne fonctionne pas. Il faut effectivement être prêt à négocier, à voir quelles sont les véritables revendications et enjeux. Et le cas échéant, ben, il faut être prêt à faire entendre raison à certains extrémistes. Et puis à partir de là, tout dépend de la situation sur place. Et là, ce sont vos deux autres interlocuteurs qui sont évidemment beaucoup plus compétents que moi.
Alors, vous venez de faire allusion à la situation de l'Est. Il y a un auditeur, Blanchard de Mbandaka à l'Équateur, qui dit « Si ces jeunes gens armés arrivent à faire face à la police, c'est parce qu'ils connaissent le point faible du gouvernement congolais qui, pour trouver une solution face à une insurrection quelconque, se met à dorloter les groupes armés comme ce fut le cas du CNDP dans les deux Kivu, d'où l'État congolais doit pouvoir aussi cajoler ces jeunes gens armés tout en leur promettant des postes ministériels pour qu'une solution d'entente leur soit trouvée. »
Oui. Ben, c'est vrai, c'est un reproche qui revient assez souvent, mais vous savez, ces solutions-là ne sont pas arrivées en un seul jour. Elles ont été des solutions, je dirais, par défaut. Et surtout, elles ont été proposées à des rebelles aguerris qui, pendant des années, avaient été capables de tenir des éléments du territoire congolais importants et de faire souffrir les populations. Donc, on en est loin. Alors, ici, je pense qu'il faut commencer par le commencement, voir ce que ces gens veulent, quelles sont leurs revendications, voir si elles sont légitimes et si on peut les rencontrer. Et puis, alors, pour le reste, mais je pense que on ne propose pas tout de suite à un rebelle un poste de colonel, de général ou de ministre, vous savez, loin de là. Mais effectivement, c'est vrai qu'on l'a vu par le passé, lorsque le rapport de force leur était favorable. Ce n'est pas encore le cas, je pense, en Équateur.
Maître Guy Nenge, il y a Mufaume Ramazani de Kalemie au Katanga qui dit « Comment expliquer que des jeunes gens appartenant à un clan soient armés, tuent des policiers et occupent des localités sans avoir l'intention de défier l'autorité de l'État? Ne devons-nous pas craindre qu'on se retrouve dans la situation vécue au Bas-Congo où on a vu des jeunes gens appartenant à un mouvement politico-religieux mettre la province à feu et à sang ?»
Oui, effectivement, c'est ce que nous croyons, raison pour laquelle nous avons adopté pour la méthodologie à laquelle je venais de faire allusion. Donc, nous voulions éviter vraiment une aventure malheureuse et inutile à notre population. Comme j'ai dit, la population de ce coin-là est extrêmement pauvre pour avoir vécu dans cet espèce d'enclavement. Et je dois vous dire, ceux qui connaissent bien cet espace-là, c'est vraiment un terrain très enclavé. Et la population risque de payer cher. C'est ça, en fait, c'est ce que nous voulons éviter.
Deux autres auditeurs nous envoient leur réaction. Pierre Nsanda de Bukavu, Sud Kivu. La situation n'est-elle pas suffisamment grave pour y envoyer carrément l'armée plutôt que la police? Trésor de Goma au Nord Kivu, que le gouvernement prenne ses responsabilités maintenant, car il est temps d'agir au lieu de s'exclamer. Maître Guy Nenge.
Oui, je suis l'éducation de l'armée. De toute façon, la police est à pied de le moment venu, elle fera son rapport. Ce sont des experts qui sont là-bas, ce ne sont pas des enfants des cas, ils sont en train de faire leur travail, et le moment venu, ils feront un rapport à pied des doigts. Mais à l'état où nous en sommes, je crois que nous pouvons peut-être marcher sur ces pas-là, et en attendant qu'il en soit disposé autrement.
Donc, si je comprends à ce stade, la force est le seul recours.
Non, pas du tout. Vous avez suivi, je crois, Paul Jean-Malinga a fait état des meetings populaires que le commissaire des districts assistant du Sud-Ubangi a fait ce matin. Et ensuite, il y a une multitude de réunions et de contacts. Donc, ce n'est pas l'usage de la force qui est absolument l'unique moyen. Mais j'ai dit ceci, c'est l'État qui a le pouvoir de vouloir. Le territoire n'appartient pas uniquement à ces groupes de jeunes gens, mais appartient à tous les ressortissants du coin-là. Et vous savez, dans une de leurs revendications, ils sont allés même plus loin en disant que
ils savent bien, ils sont en train de chasser les non-originaires de ces coins-là, entre autres le Boba et les autres, et que le secteur de Dongo doit rester comme étant l'unique secteur habité par les Lobala. Alors là, c'est très dangereux, parce que ça peut aussi entraîner d'autres revendications à caractère tribal, et ça poserait un sérieux problème pour l'administration de l'État.
Merci beaucoup, Maître Guy Nengue, gouverneur intérimaire de la province de l'Équateur. Xavier Zébrouk, en un mot, votre conclusion.
Ma conclusion, c'est que il faut en rester très attentif au développement dans les jours et les semaines qui viennent, et aussi, je dirais, au niveau de la MONUC, parce que là se pose un problème de mandat. Le mandat, les aspects spécifiques du mandat de la MONUC, notamment en matière de force qui a la capacité d'appuyer la FARDC, sont pour l'instant essentiellement limités à l'est du Congo.
Merci.
Et donc, toute opération en dehors de cette zone n'est pas possible pour l'instant.
Merci Xavier Zébrouk. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous nos invités qui ont participé à cette émission. La réalisation était assurée par Kéline Kouté, assistée de Samuel Kachak, à la mise en onde Mimi Kingu, sous la coordination de Martin Sebujangwe. Devant ce micro, Alain Irung, restez branchés sur Radio Capi.